Je m'appelle Didier. Mon épouse est décédée de maladie. J'ai toujours été convaincu que le temps ne suffirait pas à apaiser ma tristesse. J'ai cherché des ressources autour de moi pour traverser cette période. J'habite au Pays Basque. J'ai trouvé des appuis qui me permettent d'être là aujourd'hui, de parler devant ce micro pour partager mon expérience et vous encourager, pour vous aider à faire les premiers pas, difficiles, sur ce nouveau chemin que vous comme moi, vous n'avez pas choisi, mais aussi pour remettre en question des idées reçues et des tabous, pour vous faire rencontrer des personnes inspirantes qui peuvent être là pour vous aussi comme elles l'ont été pour moi. La perte et le deuil sont dans notre vie, inutile de se le cacher, on va en parler au contraire. Le deuil autrement, c'est une autre route que nous pouvons prendre ensemble. Je n'ai aucune connaissance professionnelle ni rien à vendre dans ce domaine. Si vous avez appuyé sur play pour ce podcast, félicitations, vous avez fait un premier pas. Venez avec moi, je vous emmène. Alors, je voulais vous donner quelques explications dans ce numéro introductif et pour vous dire pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. Moi, j'ai souhaité faire ce podcast « Le deuil autrement » pour parler du deuil, du chagrin, évidemment, et de ce qui se passe en nous. Et parce qu'il me semble que de parler de tout ça, ça ne relève pas de psychiatre ou de psychothérapeute, mais tout simplement d'une discussion normale, mais je n'ai pas trouvé d'espace pour cette discussion. Donc, c'est une des raisons principales. Je me suis dit que je devais... pas être le seul et que peut-être ça pouvait aider d'autres personnes d'entendre mon expérience, celle que je vis actuellement. J'ai appelé ça le deuil autrement pour dire que je ne voulais pas du silence et que je voulais que ça se passe autrement, cette expérience finalement. Et c'est aussi parce que je me suis dit que si je n'en parlais pas, peut-être que ça allait faire oublier la personne que j'ai perdue. Et ça, je ne le veux absolument pas. Et donc, j'ai besoin. Donc, je fais autrement. Et le deuil autrement, donc, c'est pour moi combler un vide, combler le vide de la parole. Et ici, au Pays Basque, il y a peu de groupes de parole. Ça me semble très insuffisant. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi pas davantage, je me demande. Et j'ai envie d'en parler. J'ai l'impression que ça nous ferait du bien de partager notre peine avec d'autres. Et aussi avoir de l'écoute. Le deuil autrement, c'est donc partager avec vous mon expérience, décrypter ce qui arrive, pour mieux comprendre et peut-être mieux accepter ce qui se passe. Et de toute façon, tout a changé pour nous. Alors d'un autre côté, certains m'ont dit « oui, c'est une thérapie ». Oui, pourquoi pas, effectivement, ça participe sans doute, c'est vrai. Le deuil autrement, c'est aussi désacraliser, déculpabiliser sur un sujet tabou et dire les choses tout haut. Donc ça, c'est la première partie, on va dire la première saison qu'on va passer ensemble. Et ensuite, dans la deuxième saison, ce sera pour échanger avec des personnes que j'ai croisées. Et donc, échanger avec des personnes inspirantes, comme on dit, qui proposent des choses très concrètes et qui, pour moi, m'ont fait du bien, que j'ai croisées par hasard ou pas. Et peut-être que quand vous serez prêts, et rien ne presse, peut-être que le podcast va vous encourager, peut-être que et quand on est dans cette détresse et face au temps qui passe, c'est difficile de se relever, on peut le faire tranquillement, chacun à son rythme, et puis on peut replonger aussi dans notre chagrin, dans notre tristesse, et ainsi de suite, petit à petit, continuer notre route. Donc on va parler bien sûr du chagrin, de la perte, mais au final on va surtout parler du lien et on va parler de l'amour en fait, hein, l'amour avec un grand A. Bonjour à tous, donc dans ces premiers épisodes, puisqu'on aura plusieurs saisons, on va dire dans cette première saison, j'ai choisi de dialoguer avec Charlotte, une personne que j'ai rencontrée par hasard. Bonjour Charlotte.
Bonjour Didier.
Donc tu es psychothérapeute à Bayonne, alors je sais on va me dire encore des psys, encore des thérapeutes, On va simplement, en fait, avoir une discussion tous les deux sur ce sujet. Et comme Charlotte a fait des études de psychologie, elle va pouvoir éclairer, peut-être apporter des réponses un peu plus complètes et plus documentées sur ce sujet. Bon, Charlotte, en tout cas, tu n'es pas une sommité internationale, spécialiste du deuil, tu n'as pas écrit des tas de bouquins sur le sujet, et comme moi, tu n'as rien à vendre, hein, n'est-ce pas?
C'est ça.
Donc,
Je suis là pour discuter avec toi de ce sujet fondamental.
voilà, donc on est effectivement, c'est une discussion, bien sûr on va essayer de la structurer, de l'organiser, et c'est une discussion qui va suivre la chronologie qu'on vit dans ces circonstances de deuil, donc depuis l'annonce du décès, le deuxième jour, puis les jours qui précèdent les obsèques, etc. Donc on va suivre cette chronologie, c'est le parti pris que j'ai choisi. On n'est pas là, bien sûr, pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, d'autant plus que c'est vraiment un sujet très, très, très personnel. Donc il n'y a pas de règles, et je dirais un peu tout est juste en la matière. Donc ça, c'est les premiers épisodes, on les passera ensemble avec Charlotte. Et ensuite, je vous présenterai des gens qui m'ont vraiment apporté un soutien, qui sont au Pays Basque comme moi, et qui peuvent aussi vous accompagner, vous aider à travers les activités et toutes les choses qu'ils peuvent proposer. En tout cas, c'est des gens très inspirants, comme on dit. Alors, moi, quand mon épouse est décédée, mon médecin m'a dit, écoutez, ne restez pas seul dans cette période. Si on vous propose des choses, faites-les. Faites tout ce qu'on vous propose. Allez au cinéma, allez au stade, allez manger des crêpes. N'hésitez pas. Allez-y, ne restez pas seul. Et donc, du coup, j'ai pris ça un peu trop au pied de la lettre et je me suis laissé happer par tout ce qui venait, tout ce qui se proposait à moi, à travers le réseau des amis et puis le hasard des rencontres. Donc le deuil autrement, ce sera aussi dans cette deuxième saison de faire connaissance donc avec ces personnes qui j'espère pourront vous donner un élan, en tout cas susciter un intérêt, une envie si vous n'en avez plus, et parfois c'est bien naturel. Bah alors Charlotte, on va démarrer tout de suite, on y va.
Oui.
Bah écoute, comment vas-tu? Est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes?
Ouf, ben, je suis un peu stressée, hein, mais ça, je te le dirai pas. Bon, en fait, je m'appelle Charlotte, donc j'ai 42 ans. Voilà, je vis en couple avec nos deux enfants et je suis psychologue clinicienne. Je travaille en cabinet, je reçois essentiellement des adultes et voilà, j'aime les couleurs, la vie, toutes les formes artistiques. Voilà, et je suis contente que tu proposes ce sujet dont on a peu d'espace finalement pour le parler. Donc voilà, j'y réponds avec plaisir.
Alors merci, et effectivement, au début de chaque épisode, je vais poser les trois mêmes questions à chaque invité, donc tu es la première à y répondre. Et justement, la première question, c'est qu'est-ce que tu as pensé la première fois que je t'ai proposé de participer à un podcast sur ce sujet du deuil?
Alors, bon, ça m'a profondément intéressée, mais pour dire vrai, j'étais très partagée. C'est-à-dire, il y avait une partie de moi qui traînait des pieds ou qui freinait en disant, Ouh là là, laissez-moi tranquille avec ça. Hein, ça montre un peu où j'en suis de mon deuil, moi. Je trouve que je m'en suis pas mal sortie, mais je ne suis pas encore vers la fin, on va dire. Et puis, voilà. Et puis, l'autre partie qui avait vraiment envie de se saisir de ce sujet. Voilà, une envie irrésistible aussi de parler de ça, d'autant que moi, j'ai vécu un deuil assez important à l'adolescence et du coup, la parole m'a été peu donnée, hein, dans un désir, j'imagine, de protection. Mais voilà, donc j'ai envie de saisir cette parole pour moi, pour les gens, et voilà.
Alors justement, donc c'est puisqu'il faut mettre les pieds dans le plat, et moi je veux qu'on parle de ça. Donc la deuxième question que je pose à mes invités, c'est effectivement tout le monde a été touché par un deuil plus ou moins sensible. Donc toi, en ce qui te concerne, dans ton expérience, effectivement, est-ce que tu peux nous parler de ce deuil, de qui s'agit-il, dans quelles circonstances, et effectivement, où est-ce que tu en es sur ce chemin?
Bon, oui, je peux dire que j'ai perdu beaucoup de monde déjà dans ma famille, hein, vraiment des gens importants que j'ai connus et d'autres des gens importants que je n'ai pas eu le temps de connaître dans ma famille, mais vraiment le deuil qui m'a marqué, qui a été quand même vécu jeune, c'était à l'âge de 15-16 ans, donc c'était mon père qui avait une maladie assez importante et du coup il est décédé des suites de cette maladie suite à une transplantation cœur-poumon. Donc à l'époque c'était,
D'accord.
tu vois, moi j'ai 42 ans, donc à l'époque c'était quand même une grosse opération, hein. C'était pas très commun. Et voilà, donc je peux dire que je m'en sors pas mal, mais c'est vrai que je pense que j'ai perdu du temps aussi sur ce chemin de deuil, et notamment peut-être parce qu'on m'a pas donné assez la parole. Voilà, je dirais que je suis toujours en deuil.
Ouais, ça c'est un sujet aussi. Y a-t-il une fin à ce deuil? Vaste question, on en parlera dans un épisode qui suivra. Alors, la troisième question, effectivement, de cette expérience-là, difficile, douloureuse, enfin, comment est-ce que tu auras un conseil à partager
Donc oui, bien sûr, j'ai qu'est-ce qu'on peut dire comme conseil? Peut-être des choses de mon expérience, mais aussi
Oui.
de ce que j'ai pu voir. Voilà, au cours de ma pratique, puisque bon, je suis devenue psychologue, j'ai travaillé en soins palliatifs dans les hôpitaux. Je pense qu'il est fondamental de parler aux enfants, de les serrer dans les bras, de leur donner, en fonction de leur âge, bien sûr, des crayons pour dessiner, des micros pour chanter, en tout cas pour s'exprimer de toutes les façons que ce soit. Pour parler à un enfant, par exemple, on peut. On peut penser que l'enfant va bien, notamment par exemple moi j'étais adolescente, donc adolescent c'est sûr on somatise, on va pas se confier aux adultes, on souhaite pas rajouter aussi à la souffrance ambiante, les adultes sont eux-mêmes touchés, donc l'adulte ne doit pas se leurrer à cette apparente indifférence de l'adolescent, hein, puisqu'effectivement même si on pense qu'un enfant va bien, certes, il peut aller bien dans ces moments-là, mais il souffre à cet endroit du mort quand même. Ça, c'est évident. Et ce qu'on peut dire aux gens, par exemple, c'est de peut-être partir d'eux, c'est-à-dire d'ouvrir la porte en disant, tiens, mais voilà, moi, je suis triste de ce qui arrive. Des fois, le soir, je pleure ou tiens, j'éprouve de la colère contre cette maladie. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive de penser? Et toi aussi, tiens, ça m'a fait du bien, j'ai croisé un tel, j'ai parlé de ça. Et toi, à qui tu parles? Et donc, voilà, l'enfant, là, apprendra que c'est normal, finalement, d'éprouver tout ça. Donc, il s'y autorisera, en fait, il s'autorisera ses émotions. Et il fera l'expérience que, finalement, il est bon de parler. Et
Ouais.
pardon, j'insiste sur ce sujet, mais c'est vrai qu'au cours de ma formation, par exemple, dans les hôpitaux, il y a marqué partout des grandes pancartes à l'entrée des services. Par exemple, à l'époque où je travaillais, il y avait marqué visite interdite aux enfants de moins de 15 ans.
Ah oui.
Ou alors même dans le programme du DU de soins palliatifs, on parlait de la souffrance des enfants. Donc il y avait un thème comme ça qui était que l'on devait apprendre. Et effectivement, quand il parlait de la souffrance des familles, il parlait des gens adultes, en fait. Jamais il ne nommait finalement des enfants, des petits-enfants. Comment on fait avec un enfant qui a 1 an? Comment on parle à un enfant qui a 4 ans? Voilà. Donc, c'est-à-dire que même dans des programmes ou dans des espaces qui voient la mort ou qui ont volonté de parler de la mort, finalement, on nommait un peu l'enfant, le petit-enfant.
Ouais.
Voilà, je pense que c'est des questions dont on doit se saisir. C'est sûr, c'est toujours difficile de parler de la mort avec un enfant, surtout quand soi-même on est perturbé par ce qui arrive.
Et une ado?
Et en même temps, on peut apprendre à parler de ça. Il faut employer des mots très simples. Les petits, on va leur faire des gros câlins. Et puis ceux qui sont plus grands, voilà, comme on disait, partir de soi pour le laisser verbaliser s'il le veut, quelque
Ouais.
chose.
Où est-ce que tu en es, toi, sur ce chemin, finalement? Tout à l'heure, tu nous as dit, oui, j'ai pas terminé, mais enfin, comment tu pourrais nous parler de ça?
Bon, je pense que j'ai bien avancé. Ça reste toujours une blessure. Voilà.
Bon. Ouais, on va pas insister. Alors, de toute façon, merci,
Quand on est
merci.
sur les plus mal chaussés, tu
Ouais,
sais.
d'accord. Je comprends.
Mais
Donc,
j'y travaille, j'y travaille.
ouais. Merci. Bon, on comprend bien. De toute façon, on est tous de façon différente. On est tous bousculés par tout ça. Bon, en tout cas, merci de ta transparence, merci de ta franchise. Donc, je voudrais peut-être que tu réagisses. Par rapport à l'introduction que j'ai faite sur ce qui me semble utile ou pas à faire sur ce sujet, et pourquoi en fait ce podcast est né. D'abord, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que, ben, on suppose que oui, puisque tu es là, mais est-ce que parler est important et pourquoi finalement l'espace de parole est si faible en fait hein, autour de nous?
Oui, je pense que parler est important. On est des êtres de parole. Effectivement, si on verbalise quelque chose que l'on ressent à l'intérieur, on le sort un peu de soi-même, on voit plus les contours, donc on se donne finalement la chance de mieux apprivoiser ce qui vient. Donc oui, je pense que c'est essentiel, ça fait du bien de parler. Après, effectivement, par rapport aux espaces de parole, je pense qu'il y a des propositions hein, par des associations,
Alors
et
ici, il y a
notamment dans
une,
les
oui.
cadres, aussi dans le cadre religieux, bien évidemment, avec des remesses, etc. Mais c'est vrai que la société, en tout cas là, on parle de la France, hein, avec la culture qu'on a perdu peut-être son esprit communautaire autour de ça. Donc, puis quand on est bien portant, en fait, on n'a tout simplement pas envie de parler de la mort, d'autant que nous, culturellement, ce n'est pas un sujet dont on s'est beaucoup saisi. Je veux dire, à part la religion, je crois que là, la société, enfin les civils, ceux qui sont athées, ou oui, doivent trouver une forme de... doivent inventer, en fait, quelque chose. Ouais,
Ouais,
pour mieux...
alors c'est vrai que ici il y a une association des endeuillés qui doit avoir un
Oui.
groupe de parole, mais je veux dire
Oui, tout à fait, ça existe.
à l'échelle du territoire, moi ça me paraît très faible, même si
Puis c'est très
c'est.
particulier parce que c'est des associations effectivement qui rassemblent des gens endeuillés, mais quand on commence le deuil, quand on vient de perdre quelqu'un, on est très ambivalent. C'est ce que je disais aussi un peu
Oui,
dans
on ouais.
l'introduction, là, dans mon rapport un peu personnel, mais je veux dire, à la fois on aurait envie de soutien et en même temps on n'aurait pas envie d'être dans un groupe pour parler de ça parce que finalement... Moi, mon deuil, il serait unique, et puis ça servirait à quoi d'en parler? Ça viendrait comme presque banaliser ce que je suis en train de vivre. Et c'est vrai que les gens, parfois même, n'arrivent pas chez le psy avec ces questions-là en disant, mais qu'est-ce que ça va m'apporter un psy? J'ai pas envie d'oublier, moi, la personne pour qui, là, je suis en souffrance. En fait, il y a une forme comme ça de mouvement un peu ambivalent où on aimerait, et puis en même temps, non.
Oui,
Donc...
ça, je
C'est ça, hein,
confirme. Ouais.
c'est...
Je confirme. Moi, j'avais effectivement.
Je pense que c'est plus culturellement quoi qu'on devrait s'en saisir. Voilà, je...
Ouais. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'avais. Je veux, enfin, je veux, d'ailleurs, c'est ce que je fais, mais je veux en parler
Oui.
pour plein de raisons différentes. On l'évoquera aussi dans le détail, tout ça, mais. Parfois, on n'a pas envie, et parfois, voilà, ça nécessite de faire une démarche déjà, et cette démarche, elle est déjà compliquée. Donc, parce qu'on ne veut rien, on a envie de rien, et rien nous intéresse, et donc, décrocher le téléphone pour aller contacter quelqu'un, c'est déjà presque trop. C'est déjà signe qu'on a de l'énergie pour quelque chose, et on verra que dans les premiers temps, en tout cas, même ça, c'est difficile. Mais c'est vrai que le silence, il arrange un peu tout le monde. Au travail, c'est la même façon. Je dirais, quand vous rentrez de ces quelques jours de congé qu'on vous propose, bah, y a aussi beaucoup de malaise. Les gens ne savent pas. effectivement aborder quelqu'un qui est dans cette situation. On n'a pas, oui, on est gêné, on est, voilà, on a peur de déclencher des choses et à juste titre hein, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc voilà,
il y a. Disons qu'on peut se dire que on peut toujours ouvrir une question avec quelqu'un si on laisse libre l'autre de nous répondre, c'est-à-dire effectivement posant une question à quelqu'un endeuillé, on peut s'attendre à, ben là, j'ai pas envie d'en parler, par exemple. Voilà, il faut accueillir aussi que l'autre, il a la liberté de répondre ou pas à ce moment-là. Mais en fait, en posant cette question, on ne fait jamais de mal. En la posant une fois, de temps en temps, on ne fait jamais de mal, vraiment. La personne endeuillée pense tout le temps à l'être qui vient de partir. Donc, hein, ça, ce serait illusoire de penser qu'on fait mal, parce que c'est souvent...
Oui, non, mais c'est de la maladresse, c'est... en même temps, moi, j'aimerais qu'on me dise alors comment ça va, ou oui. J'aimerais qu'on me parle en fait. J'aimerais pour partager et pleurer et voilà et exprimer tout ce que j'ai à tout ce que j'ai sur ce sujet-là quoi. J'aimerais, mais en même temps, effectivement, c'est délicat aussi ouais, c'est délicat au travail, voilà et au sein d'ailleurs de la famille aussi, c'est la même chose. On en parlera aussi dans les épisodes qui viennent. Sur la question du mouvement, enfin, quand on est en deuil, on est, voilà, on est abattu complètement et on est d'abord dans l'inaction, inaction totale. On est sur une île déserte ou au milieu du désert. Enfin, je ne sais pas comment chacun vit les choses, mais en tout cas, on est vraiment perdu et... à la fois, on va se retrouver dans cette tristesse, dans les larmes, dans l'émotion. Je pleure, je suis au fond du seau. Et à la fois, finalement, cette vie, elle est quand même là. Ceux qui sont partis. Nous, on n'est pas partis, on est là. Et je crois que c'est important aussi qu'on vive... pour tous ceux qui sont partis, d'ailleurs, c'est une parole qui avait été entendue lors des funérailles de mon épouse. Bref, c'est important de se mettre en mouvement et à la fois, c'est important d'être dans cette tristesse. Comment on passe de cette dépression, on va dire, j'aime pas ce terme-là, mais de cette phase de dépression à effectivement, il y a un mouvement qui peut se faire. Et...
Mais je crois que... la vie insiste toujours. C'est-à-dire que, effectivement, comme on le verra peut-être dans les prochains épisodes, il y a un chemin, quoi, un temps incompressible, hein, où on va passer peut-être au tout début, on le dira, par un peu une fuite en avant, on se met en mouvement, on essaye de garder l'énergie de la relation, on réalise pas vraiment l'irréversibilité de la perte, etc. Et puis après, il y a effectivement une souffrance liée au manque, où là, ça va être très profond. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on a parfois besoin de s'isoler, de souffrir, parce que ce serait comme un lien, finalement, à la personne qui est morte. Et puis, en même temps, être totalement en joie, s'entendre rire, alors même que l'autre est mort ou qu'il a souffert, c'est compliqué, en fait, au début. Au début, c'est compliqué. Ce sont plein d'expériences, finalement, inédites qu'on doit éprouver, déjà, et puis après, apprivoiser, quoi, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment... temps comme ça qui est un peu incompressible. Et surtout, on est des êtres humains, donc on pleure ce qu'on perd. On était attaché à quelque chose, à quelqu'un, on va pleurer ce qu'on perd. Mais comme tu disais, effectivement, dans cette question de l'autre qui est mort, en fait, c'est... moi, j'existe. C'est-à-dire, quand je dis la vie insiste toujours, mais je suis vivant, quoi. Et finalement, j'aurais tort un peu de m'en priver, mais en fait, ce n'est pas mal ou bien que l'autre soit mort, et ce n'est pas mal ou bien que moi, je sois vivant. Ce n'est pas en ces termes-là que les choses se posent. Et donc, je suis vivant, et c'est ainsi, et on a déjà fait l'expérience quand même des saveurs de la vie. Donc on y revient, le désir peut revenir petit à petit.
Et de toute façon, en même temps, c'est pas une... dire on est des êtres humains, donc cette mort, elle fait partie de notre vie. Donc quelque part, on est quand même taillé pour
Exactement.
Passer, traverser ces moments.
C'est naturel. Hein,
donc c'est naturel en fait.
Voilà. Tout à fait.
C'est naturel. Donc.
C'est un processus normal, c'est quelque chose que l'on peut faire. Et d'ailleurs, même parfois qui apporte une force. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes endeuillées qui témoignent de ça. C'est-à-dire. Il peut y avoir des chemins vertigineux, mais il peut y avoir aussi, et c'est beaucoup témoigné, un changement dans notre vie, mais qui est positif, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne sera plus le même qu'avant, mais il y a quelque chose qui peut ressortir positif de cette crise. C'est-à-dire les gens disent, bah, finalement, ça change leur rapport aux gens, enfin aux autres, quoi,
oui.
À l'autre, ou à la vie, le rapport à la vie.
C'est clair.
Et ça, les gens le témoignent très, très fortement. Et ça me fait penser à... un jour, j'écoutais le témoignage... Enfin, c'était une écriture. Hein, la personne est décédée d'une rescapée des camps. Et elle écrivait comme si, voilà, là, elle était morte. Et on lisait sa lettre. Et elle disait, mais j'espère que vous, les vivants, vous apprenez quelque chose, quoi. Que vous apprenez une danse, par exemple. Ou que vous apprenez à chanter. Voilà, pour dire... Voilà, la saveur des choses et la légitimité continuer.
Oui. C'est vrai que y a ce mouvement de vie qui va se manifester. Et c'est joli d'ailleurs ce que tu dis. La vie insiste toujours. Si on est ouvert sur ce qui se passe autour de nous, on en parlera. On fera un épisode où on parlera des signes. Et de ce qui peut se présenter à nous. Enfin, quand on est ouvert à ça, ben effectivement, on a une autre vision. On a une autre vision de ce qui se passe, de notre existence, du pourquoi. Ça nous ouvre quand même des horizons. Si on s'y intéresse, voilà, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi elle est partie? Pourquoi je suis là? Donc ça, tout le monde va se le demander. Et ça nous ouvre des portes, voilà, qu'il faut prendre le temps d'ouvrir tranquillement. Et puis à la fois, voilà, moi, encore une fois, chaque cas est vraiment particulier, singulier, chaque relation est particulière, et chaque personne, voilà, vous avez un lien particulier avec elle. Et donc, on peut... très vite, moi personnellement, il suffit que je sois dans la rue, j'aperçois une silhouette qui ressemble à mon épouse, et ça y est, je pars, je suis en larmes, voilà, donc ça se redéclenche tout de suite. Donc ce sont des va-et-vient comme ça. Alors pour l'instant, je ne peux pas dire jusqu'à quand ça durera. En tout cas, personnellement, c'est ce qui se passe pour moi. Et donc, voilà, faut rappeler à tout le monde qu'on est quand même taillé pour cette épreuve, pour ces épreuves, parce que, voilà, notre monde est ce qu'il est, et nous, on a un début et une fin. Et donc, tous les gens autour de nous sont dans le même cas. Voilà, donc c'est naturel de pouvoir se relever après ces périodes difficiles, et c'est pas... ni honteux, ni bien, ni mal. Enfin, d'être en mouvement et
C'est un processus naturel et dans lequel on va éprouver des choses extrêmement fortes. Ça emprunte presque une allure, vous voyez, pathologique, tellement c'est fort. Mais en fait, ce sont des émotions qui sont adaptatives, c'est-à-dire qui vont nous permettre d'avancer. Mais aussi, parfois, le chemin peut être entravé. C'est-à-dire le processus de deuil, parfois, il peut être compliqué par d'autres aspects. Il y a des deuils normaux, mais il y a aussi des deuils qu'on va considérer compliqués et pathologiques.
Oui, d'accord.
Et donc, on le développera pas forcément. Vous pouvez trouver ça dans la littérature. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on peut aussi faire notre deuil en fonction aussi de certains critères, c'est-à-dire de la relation, de la nature de la relation, ouais, qu'on avait sûr. À l'autre, de comment il est mort et du soutien que j'ai. Et effectivement, si dans ces trois critères, il y a des choses un peu complexes, ça risque de venir se réveiller, s'exacerber au moment de la mort de l'autre, puisque finalement, avec la mort, bah, les choses s'arrêtent. On ne peut plus penser qu'un jour ça va se régler ou que...
Ouais.
Voilà, donc là, on fait face de façon confrontante à des réalités. Et là, je pense que c'est important de pouvoir être un peu repéré par les amis ou passer le cap, effectivement, d'aller voir quelqu'un, de... Voilà, de ne pas,
ouais, ça
de
peut pas être, rester ça seul peut être avec évidemment, ça. Voilà, que, comme je disais, chaque cas est vraiment singulier, particulier. Donc, on peut avoir des cas... plus ou moins complexe, avec des relations plus ou moins
Oui.
Ouais, difficiles. Je vois ce que tu veux dire. Alors, pour terminer ce numéro 0, parce qu'on va, on va rentrer dans ces détails, en fait, avec cette approche chronologique, on va se retrouver avec toi sur chaque détail de tout ça. Et je voudrais qu'on essaie de donner des petits conseils. Alors, ça paraît, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, mais... Bon, sur cette parole, moi, voilà, premier conseil, comment est-ce qu'on peut, finalement, on a un proche qui est en deuil, comment est-ce qu'on s'y prend pour l'appeler, simplement, comment on peut faire pour, voilà, on pense à lui, mais on n'ose pas. Moi, je pense qu'il faut que vous osiez, il faut oser envoyer un signal à ces gens qui sont dans la peine, parce que ça nous fait plaisir de recevoir un coup de fil, un message, même si on est en pleurs, ça nous fait plaisir. Donc, moi, j'encourage tout le monde à passer un petit coup de fil et oser le faire. Mais comment, voilà, un petit conseil, comment est-ce qu'on peut finalement s'y prendre pour appeler quelqu'un qui est en deuil et demander de ses nouvelles, lui dire comment on fait?
Oui, je crois qu'il faut oser la rencontre sur ce sujet. Donc, ça comporte toujours une part un peu de risque pour chacun. Et c'est vrai qu'on fait comme on peut avec l'histoire qu'on a. Mais je crois que la chose essentielle, en fait, c'est l'authenticité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est important d'oser poser une question ou de faire un témoignage. Mais il faut l'éprouver comme vrai, comme authentique. Parce que là, du coup, oui, ça touchera l'autre. Si on,
oui,
le fait,
le
si
cœur,
on le fait pour
pas...
le faire exactement, oui. C'est vraiment des endroits où voilà, il faut le faire avec le cœur. Et si on ne le sent pas, c'est peut-être pour d'autres raisons. Et c'est peut-être aussi l'occasion de prendre soin de soi. On a peut-être quelque chose de bloqué avec ça. Ou...
Ouais.
Bon, voilà. Donc,
on y va avec le cœur et on dit tout simplement, mais comment tu vas,
ouais.
Je suis là.
Oui, je pense à toi. Je suis triste. Comment toi tu te sens ouais, où c'est que tu en es?
Ouais.
Okay. Je suis là si tu as besoin.
Bon, tout simplement. Ok. Bon,
et les enfants, on leur fait des câlins et puis on leur voilà, on parle de soi avec les enfants et hein,
d'accord.
On les oublie pas.
Ok. Allez, on fait passer le message. Très bien. Ok. Bon, écoute, merci Charlotte. On va
merci
poursuivre. Le premier épisode, après ce préambule, on va faire ce premier épisode sur le jour J, le jour où tout bascule. Et donc, on abordera ça avec toi bientôt. Bon, ben merci beaucoup. À
merci,
bientôt.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. À vous tous, je vous dis, la vie est là, profitez-en. Vous êtes capables de traverser. Et surtout, cultivez l'amour, c'est le plus important. À bientôt.
Sommet des villes, plus de parfums que d'épines, puis tout qui est à sa place, qui est à sa place. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.